Bonjour, comment vas-tu?
Je vais très bien, je te remercie.
Bon, on va parler de ton travail. Que fais-tu dans la vie?
Eh bien, dans la vie, je suis enseignant, enseignant en espagnol depuis une quinzaine d'années. J'enseigne donc au collège privé de. Donc, est un collège qui se situe au sud de l'agglomération Messine.
Tu y vas comment en général?
Depuis l'ouverture de la rocade sud, j'emprunte donc cette voie pour m'y rendre. Auparavant, je traversais la ville. Maintenant, je la contourne et j'y suis généralement en une dizaine de minutes.
Parle-moi de ton collège.
Le collège de, comme je l'ai dit auparavant, est un collège donc privé sous contrat. C'est une petite structure de moins de 300 élèves. Il regroupe une dizaine, douzaine de classes, à peu près trois par niveau, des classes d'une vingtaine d'élèves, 25 tout au plus. C'est un collège qui a une vocation spécifique, c'est-à-dire celle d'accueillir des gens de tout horizon, de tout niveau scolaire. C'est ainsi qu'on réussit donc à faire entrer toutes sortes d'élèves.
Et comment tu te sens avec les élèves?
La relation que j'entretiens avec les élèves est généralement bonne. C'est-à-dire que je peux exercer mon métier d'enseignant avec sérénité en général. Les élèves demeurent des élèves. Les élèves ont également évolué à travers les années. Néanmoins, les élèves sont toujours demandeurs. Ils sont toujours curieux. En quelque sorte, il faut savoir les gérer, les intéresser, sans, eh bien, les laisser se dissiper également.
S'intéresser, ça veut dire quoi?
Alors, s'intéresser à l'école, bien évidemment, mais également s'intéresser à tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine des études, puisque les études, on le sait, mènent à tout, s'intéresser aussi à une nouvelle culture, à des manières de penser différentes des leurs, s'intéresser en général.
Est-ce que tu peux me raconter les déroulements d'une heure de classe, par exemple?
Oui, une heure de classe se déroule de manière assez académique, c'est-à-dire que les élèves entrent en ordre dans la classe, ils s'assiedent, puis je fais l'appel, je remplis donc à la suite un billet d'absence ou des billets de retard, puis il y a donc dans une séquence pédagogique une première partie de réinvestissement du cours précédent. On développe une partie nouvelle, puis on essaie toujours de faire une conclusion, voire une trace écrite, et bien entendu, on n'oublie pas de leur donner des devoirs pour consolider l'acquisition orale du cours.
Est-ce qu'ils sont fidèles au devoir? C'est-à-dire, est-ce qu'ils le font comme il le faut?
Alors, est-ce qu'ils sont fidèles? Ils devraient l'être. On se rend compte aujourd'hui que les élèves ne travaillent pas beaucoup en dehors des heures de classe. C'est pour cela que l'heure de classe est envisagée comme une heure où ils vont pouvoir acquérir 75% alors des données nécessaires à leur avancement.
D'accord. est-ce que tu te rappelles d'un événement qui t'a marqué en particulier, de manière positive, bien entendu?
Alors, après 15 ans de carrière, bien évidemment, j'ai en tête bien des souvenirs. Si tu me demandes un souvenir qui m'a particulièrement marqué, alors je dirais que oui. C'était il y a bien longtemps, en classe de quatrième. Je faisais répéter aux élèves une chanson à la mode, quand tout d'un coup, la directrice est entrée dans la classe comme une furie, en ouvrant la porte d'un seul coup. Et là, surprise, elle s'est rendue compte que c'était simplement une répétition d'une chanson sur le tableau.
Te souviens-tu d'une mauvaise expérience ?
Oui, je me souviens d'une fois où une élève en particulier m'avait insulté. Et donc, je me suis retrouvé dans le bureau du principal. Et là, ça a été ma parole contre la sienne. Et le directeur restait dubitatif jusqu'au moment où, eh bien, un jour après, il a subi les mêmes insultes de la même élève, mais cette fois-ci devant les parents, au commencement de la journée. Là, il a réalisé que c'était l'élève alors qui était en tort.
Donc, quel bilan tires-tu de ces années dans l'enseignement ?
Eh bien, c'est vrai qu'au bout de 15 ans d'enseignement, il y a certainement un bilan mitigé, mais néanmoins positif. En 15 ans, on évolue dans sa perception donc des élèves, on mûrit certainement dans son expérience psychologique, dans son expérience de vie. Je dirais que aujourd'hui, je n'enseigne pas comme au commencement de ma carrière, loin de là, mais je pense qu'il reste encore bien des domaines à découvrir et à explorer.
D'après tes mauvaises expériences dont tu viens de parler, quel bilan donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans le milieu, dans le métier ?
Eh bien, si j'avais un conseil à donner à un jeune enseignant, si on peut donner réellement des conseils, ce serait de réfléchir, eh bien, à l'investissement émotionnel qu'il désire ou qu'il accepte de donner à sa carrière. Je pense surtout qu'il faut garder la passion pour le métier, avoir le désir, eh bien, de communiquer sa passion à ses élèves. Ceci, les élèves s'en rendent compte. Si tu enseignes une matière que tu aimes, une culture que tu aimes, je pense que tu suscites forcément une adhésion de la part, eh bien, de celui qui reçoit ton enseignement. Le pire serait de toute évidence de pratiquer ce métier en pur fonctionnaire.
À ton avis, comment évolue la profession ?
Alors, la profession évolue forcément, puisque les élèves évoluent. On peut noter depuis une dizaine d'années une évolution dans les programmes, puisqu'ils ont une tendance à s'alléger, à également, eh bien, se concentrer, se synthétiser. On note aussi qu'il y a une évolution dans la relation entre l'adulte et l'enfant, puisque même au sein même de la société, les enfants et les adultes évoluent dans leur rapport. On peut noter évidemment que la notion de famille s'est reconstruite. Aujourd'hui, les familles monoparentales sont la majorité et nos élèves font partie de familles monoparentales ou recomposées. Et dans ce cadre-là, eh bien, l'image du père ou l'image de l'autorité proprement dite, a une tendance à évoluer automatiquement.
On reproche souvent à l'école de ne pas préparer les jeunes aux réalités du monde, du travail. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que le principal défaut de l'école, et on dit bien qu'un enseignant est finalement un grand élève attardé qui n'est jamais sorti d'une salle de classe, c'est d'être évidemment déconnecté de la réalité du monde de l'entreprise. C'est-à-dire que tout enseignement théorique doit déboucher sur une pratique qui, elle, est liée au monde économique. L'école doit, à travers l'apprentissage, à travers également les stages et les formations, déboucher sur des compétences concrètes et collées à la demande du marché. Je pense qu'on ne gardera plus le même métier toute sa vie. On est censé évoluer, on est censé alors changer de métier deux ou trois fois dans sa vie. Je pense que la mondialisation ainsi que l'accélération des flux d'informations sont là pour nous rappeler que le monde aujourd'hui doit être perçu comme une globalité et non plus comme des êtres humains qui font chacun leur petit bout de travail de leur côté.
Donc tu envisages de te réorienter ?
Oui, c'est effectivement une possibilité. Je pense que j'ai choisi ce métier parce que certainement il correspondait à une forme d'esprit, un désir d'enseigner, un désir également de communiquer. Puisque j'ai fait des sciences humaines, il est vrai qu'au bout de 15 ans, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, j'aurais peut-être le désir de faire d'autres formations, peut-être plus économiques.
Laquelle ?
Alors laquelle ? Faire du business ou peut-être du social.
Pourquoi business ?
Business, parce que lorsqu'on a 20 ans, alors on a des idéaux. Lorsqu'on en a 40, on a des réalités. Et à 60 ans, il ne faudrait surtout pas avoir des regrets.
Quelles sont pour toi les valeurs fondamentales dans le monde du travail ?
Je pense que le monde du travail doit s'organiser sur une relation fondamentalement gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on doit y trouver un respect, on doit y trouver également alors un enrichissement matériel, psychologique. Je pense que le monde du travail doit amener alors aux gens un épanouissement certain, et parfois alors on ne le retrouve pas forcément.
Penses-tu que le chômage est une fatalité ?
Je ne pense pas que le chômage soit une fatalité. Néanmoins, on se rend compte que l'école forme des cohortes de chômeurs. Or, on se rend compte que l'institution souvent vit dans une tour d'ivoire et que, elle n'apprend pas aux gens l'initiative, le sens des responsabilités. Elle ne leur apprend pas non plus alors le goût de l'effort, le goût de la persévérance. Je pense qu'on devrait inciter les gens à créer des entreprises et à se prendre en main, plutôt que alors d'encourager une forme d'assistanat ou une forme de nonchalance. Néanmoins, il est évident qu'on ne peut pas passer d'une situation d'assistanat à une situation de chef d'entreprise du jour au lendemain. Il faudrait inventer des mécanismes permettant aux gens de se lancer, également de libérer la force du travail. Peut-être qu'un état-providence taxe moins la force du travail aussi, le produit du travail. Je pense qu'il faut encourager les gens à travailler et également à bénéficier du fruit de leurs efforts.
Si tu devais créer une école idéale, comment y prendrais-tu ?
Alors, si je voulais créer une école idéale, je ne ferais pas l'école sans règles ou l'école sans clés. Je pense que je privilégierais les enseignements fondamentaux le matin et je laisserais une libre expression les après-midi. C'est-à-dire que les élèves ne seraient pas déconnectés de la réalité comme, je pense, ils le sont aujourd'hui.
Que penses-tu du e-learning?
Alors le e-learning, ou l'enseignement par Internet, je pense à des beaux jours devant lui. C'est-à-dire qu'il va se développer, que ce soit au niveau du monde de l'entreprise ou même au niveau des particuliers. Je pense que la soif de connaissances augmentant, les besoins vont être en augmentation et l'offre va également augmenter. C'est-à-dire qu'on va proposer aux gens des formations de toutes sortes, eh bien, sur Internet, et ils pourront gérer leur temps de manière plus agréable sans faire forcément du présentiel.
Et à part l'espagnol, quelle langue parles-tu?
Alors bien entendu, je parle français, qui est la langue de Molière, la plus belle langue au monde, mais peut-être aussi la plus difficile. Je parle l'anglais.
C'est ta langue maternelle?
L'espagnol n'est pas ma langue maternelle. Excuse-moi, le français n'est pas ma langue maternelle. L'espagnol est ma langue maternelle. Je parle également anglais. J'ai quelques notions d'allemand et d'autres langues latines comme l'italien, le portugais, le catalan.
À ton avis, quelle langue va le plus se parler dans 20 ans?
C'est une bonne question. Je pense que l'anglais restera la langue des affaires, puisqu'aujourd'hui, les flux financiers ou les flux d'informations se font déjà aux trois quarts en anglais. Je pense que le français et l'espagnol vont rester, ainsi que l'allemand, des langues primordiales, mais je serais curieux de voir dans quelques années l'impact alors du chinois mandarin, voire de l'hindou, puisque ce sont des populations qui maintenant dépassent le milliard d'habitants.
Bon, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions.
C'est moi qui te remercie. Et à bientôt.
Merci.